Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans cet épisode, nous avons reçu Ingrid. Il y a quelques années, Ingrid, confrontée à un quotidien un peu trop métro, boulot, dodo à son goût, a décidé de tout envoyer valser et de partir en voyage en Asie du Sud-Est pour renouer avec ses racines. Ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est que ce voyage va déclencher chez elle un autre déclic, celui de changer de vie pour se lancer dans l'humanitaire. Bonjour Ingrid.
Bonjour Juliette.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Écoute, ça va très bien, je te remercie. On est ravis avec Sophie de pouvoir t'avoir dans le déclic. Dans cet épisode, tu vas nous raconter ton histoire et ton déclic. Je ne sais pas si tu as écouté un petit peu nos autres épisodes, mais en fait, à chaque fois, dans le déclic, on fait un petit retour en arrière pour comprendre un petit peu mieux nos invités et ce qui les a menés vers le déclic qu'ils ont eu. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, Ingrid, ce que tu fais dans la vie, évidemment, dans les grandes lignes, si tu n'as pas envie de rentrer dans les détails?
Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Ingrid, j'ai 31 ans et en ce moment, je suis actrice. Donc ni au théâtre, ni pour le cinéma, enfin pour le moment. Je suis actrice dans un Cluedo géant.
Génial.
Donc, comme le principe du Cluedo, en fait, je suis un des personnages qu'on doit interroger et découvrir si c'est moi ou pas la personne qui a tué.
C'est incroyable, ça doit être hyper fun. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour les auditeurs qui seraient un peu intrigués?
Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est dans l'air un peu de tout ce qui est escape game, live game et tout le reste, on va dire. C'est vraiment une formule grandeur nature où tu as des spectateurs qui viennent dans un univers. Là, en l'occurrence, c'est l'asile psychiatrique. Mm-hmm. Et ils ont 2 heures pour interroger des personnages. Et comme le Cluedo, découvrir le mobile du crime, comment les personnages sont morts, l'arme du crime, et ainsi de suite. Je ne peux pas trop en dire parce que du coup, ça, c'est un peu confidentiel et que ça spoilerait, en fait, je pense, les gens qui participeraient. Mais l'idée, voilà, c'est comme si tu jouais au Cluedo en jeu de société et finalement, tu te retrouves avec tes potes, avec une lampe UV et un papier, un stylo. Et toi, tu dois à la fois explorer le décor et à la fois interroger les personnages.
Ça a l'air génial. Si jamais tu le veux bien, on mettra quelques informations dans la barre d'infos si jamais le projet est déjà monté et puis qu'évidemment on peut refaire ce genre d'activité avec la situation sanitaire. On mettra un petit peu d'informations dans la barre d'infos pour les auditeurs qui seraient éventuellement intéressés. Un peu dur d'enchaîner après cette expérience-là, mais en fait, on se connaît, Ingrid, par un ami commun donc, qui s'appelle Jérémy, qui a participé à un déclic. Je vous invite à l'écouter. Et en fait, par Jérémy, je sais que tu as eu plusieurs expériences professionnelles dans ta vie. Donc, comme tu le dis, en ce moment, tu es actrice. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour qu'on comprenne un peu ta personnalité qui est très fonceuse et qui change beaucoup de projets, etc.?
Oui, bien sûr. Je pense que ça fait un peu instable. Mais,
oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai.
Non, mais après, je pense que je suis un peu, comme dirait un ancien patron, je suis un 2000 pattes. Parce que j'ai toujours été animée par l'envie d'apprendre. Clairement, j'ai pas d'autres définitions aussi. Peut-être je suis vraiment, en fait, mon cœur et mes tripes. Et comme je suis quelqu'un d'hyperactif et que j'apprends très vite, je suis curieuse de tout. Et ça fait que je me suis lancée dans des professions qui n'avaient rien à voir avec moi initialement. Et de fil en aiguille, en fait, je ne fais que suivre finalement mon intuition. J'ai, on va dire, longtemps suivi ce que mes parents auraient voulu de moi, une vie un peu plus conformiste et un peu le schéma que tout le monde possède, hein, le CDI, métro, boulot, dodo. Mais j'ai vite découvert que j'avais envie de tout le temps changer parce que j'apprenais rapidement et que j'avais envie d'autre chose et que dès que quelque chose m'intéressait, j'y allais passionnément et je le faisais à fond. Et la dernière fois, en fait, c'est assez marrant, j'ai fait l'inventaire de tous les jobs que j'avais fait et j'en ai fait, je sais pas, plus d'une trentaine.
Incroyable.
Ouais, voilà. Et genre, franchement, ça va de responsable support pour une ONG à opératrice en parc acrobatique en hauteur, donc c'est-à-dire pour un accrobranche. Donc, vraiment.
Et justement, en fait, on va y venir à ton déclic parce que c'est le plus intéressant, c'est de parler de ton déclic et de ce que ça a déclenché en toi. Et en fait, ton déclic, ça a été un voyage qui t'a fait valser un petit peu tout ce que tu avais, donc ce CDI, le métro, boulot, dodo, etc. Mais ce voyage a été lui-même un déclic pour ensuite une reconversion professionnelle. Du coup, est-ce qu'on va commencer par le commencement, le fait que tu as un jour décidé de tout plaquer pour aller voyager en Asie, et donc ce qui a permis de te reconvertir dans l'humanitaire. Est-ce que tu te rappelles ce qui a fait que tu as tout plaqué? Que tu as décidé d'un jour te dire, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais.
Vraiment, oui, je m'en souviens parce que c'était vraiment au niveau physique que j'ai ressenti des choses. Ce matin-là, c'était un matin de janvier, je sortais de l'appartement, j'habitais à l'époque avec un de mes ex, et je vais à mon job. Là, je bossais pour une grosse boîte qui était basée à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon. Et j'arrive au bureau et en fait, non, j'ai une sensation, mais vraiment viscérale, qui me prend. J'ai une douleur au plexus solaire et je suis obligée de m'asseoir. Et la seule phrase qui me venait en tête, c'est j'ai pas signé pour ça, c'est pas ma vie. Je suis en train de passer à côté de ma vie, je suis en train de satisfaire aux besoins de peut-être de mes parents, de mes proches ou quoi, mais en fait, c'est non, ça me correspond pas, quoi.
Et qu'est-ce qui fait, est-ce que tu te rappelles de ce qui a fait que tu as tout plaqué? Est-ce que ça a été une petite graine qui a germé ou est-ce qu'il y a eu un déclic finalement? Est-ce qu'il y a eu un événement, je ne sais pas, quelque chose qui s'est mal passé au boulot ou c'est en fait c'est un ras-le-bol qui est devenu tellement gros qu'à un moment ça a appuyé sur toi?
Non, je pense que c'était un cumul. Je pense que de base, de toute façon, j'avais toujours été un peu vadrouilleuse hein, depuis la fin de mes études. Et je pense que quand j'ai eu 25 ans, à ce moment, j'avais 25 ans à ce moment-là, et je me suis dit, voilà, peut-être qu'il est temps que tu te ranges. Tout le monde commence à me le dire, que ce soit mes parents, mes amis, en disant voilà, que fallait que je pense à ma carrière, etc., etc. Et je me suis dit, je pense que je me suis laissé embarquer par le truc. Donc j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai signé mon premier CDI parce que j'avais jusqu'à présent, voilà, plutôt opté pour des CDD qui me permettaient de partir assez rapidement à l'étranger et pas être contrainte au niveau administratif. Et là, je pense que c'était un cumul de tout. Le poste en question, voilà, c'était super bien parce que c'était une création de poste et que j'étais plutôt libre de ce que je faisais, mais je n'étais pas stimulée intellectuellement. Je pense aussi que ma relation de couple, du coup, mon ex, voilà, lui, c'était vraiment, voilà, il me disait, écoute, si ça se passe toujours bien entre nous, peut-être qu'à la fin de l'année, on fera un enfant. Dans ma tête, je pense que ça a été aussi un peu le, oh, non, je veux pas d'enfant et en fait, pas avec toi.
Et puis en plus, il y avait le côté très planifié, c'est-à-dire que, il y a l'espèce de contrat de se dire, en fait, comme un travail, quoi. C'est-à-dire que si ça se passe bien, à la fin, tu valides ta période d'essai. Bon, c'était un peu ça, ce qui te présentait ton ex, c'était, bon, si la période d'essai est validée, on validera ça avec un enfant. Donc effectivement, il y a de quoi un peu flipper, surtout si tu t'imagines pas un avenir avec lui.
Oui, et je voyais, en fait, je voyais vraiment ma vie défiler, quoi. Je voyais nos week-ends, bon, ça va, on fait quand même pas mal de choses, on fait pas mal de sport et tout ça, mais non, je me disais, si c'est pour aller faire des repas entre couples tous les samedis et le dimanche, aller voir ses parents ou les miens, non, non, c'était un peu anxiogène, justement, pour moi, et pareil pour le travail, parce que finalement, même si j'étais dans une zone de confort, je me disais, est-ce que ça a vraiment un sens pour moi? Est-ce que je m'éclate? Et clairement, partant du principe que tu passes plus de temps au travail que dans ta vie perso, on va dire, voilà, il faut mieux choisir un boulot que t'aimes.
C'est clair. Et justement, est-ce que tu te rappelles aussi en fait, au-delà de cette sensation que tu as eue sur ton plexus solaire, etc., est-ce que tu te rappelles quelle a été ta réaction? Est-ce que, je sais pas, tu t'es barré du bureau? Est-ce que, comment ça, en fait, comment ce déclic s'est cristallisé en toi de tout plaquer concrètement?
C'est exactement ça en fait. Je me suis dit, ok, bon, ok, cool, genre, enfin, moins cool, mais tu ressens ça. Qu'est-ce que t'en fais? Et là, je me suis dit, non, il fallait que je prenne le taureau par les cornes. Du coup, je pense que j'ai passé la journée au bureau un peu cogiter sur comment j'aurais préparé les choses, ce que j'allais faire, et ainsi de suite. Et finalement, en fait, je pense que c'est pas un hasard, mais du coup, j'ai eu une altercation avec mon boss et tout à ce moment-là. Et en fait, je lui ai dit, bah, écoutez, en fait, je pense que ça doit s'arrêter ici. Et parce que voilà, parce que je m'ennuie et que j'ai besoin d'autre chose. Donc là, il était un peu surpris par ma réaction. Il m'a dit, bah, je vous laisse le week-end et on en reparle le lundi. Et en fait, le lundi, voilà, j'avais décidé de faire une rupture conventionnelle.
Et par rapport à ton copain, est-ce que c'est venu en même temps ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Enfin, ton ex, du coup.
Oui, en fait, je pense, tu sais, ça, la plupart du temps, quand tu es en couple et des fois que tu restes un peu par habitude. Moi je savais déjà, ça faisait pas longtemps, tout est relatif, mais ça faisait plus d'un an qu'on était ensemble, mais voilà, ça allait plus trop bien, mais je pense que je me serais voilé la face si j'étais restée plus longtemps avec lui, alors que je savais qu'il n'y avait pas d'avenir vraiment possible entre nous. Donc non, ça s'est vraiment enchaîné aussi. Du coup moi pareil, hein, je lui ai parlé de voilà, que c'était plus possible pour notre couple. On avait d'autres problématiques entre nous. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le voyage en question, lui, en fait, il voulait. C'était des vacances, en fait, à la base. Qu'on voulait préparer et tout, mais juste pour la Thaïlande, en backpack. Et en fait, moi, en fait, je me suis dit non, mais j'ai pas envie ni de partir avec lui pour aller sur mes terres, entre guillemets. Et ouais, j'ai pas envie de faire un voyage, vacances. Voilà, non, je veux vraiment faire un voyage pour moi.
Oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'introduction, mais je le rappelle pour nos auditeurs. En effet, toi, dans ce voyage, il y a eu en fait ce besoin à la fois de fuir cette vie qui ne te convenait plus, de trouver quelque chose qui soit en accord avec toi-même, mais aussi de renouer avec tes racines laotiennes, si je ne me trompe pas.
Ma mère du Laos et mon père du Vietnam.
D'accord, très bien. Donc, de renouer avec les racines de tes parents et de tes ancêtres. Donc, effectivement, en fait, ça va paraître très égocentrique ce que je vais dire, mais c'était très centré autour de toi. En fait, tu avais besoin de penser à toi. Tu avais besoin de te retrouver.
Oui, justement, et je pense qu'il n'y a pas de honte, justement. Tu vois, je sais qu'en France, surtout, on a ce truc-là. Si on parle de soi, forcément, on est égocentré. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, non. En fait, il faut juste être un minimum égoïste pour être justement plus altruiste. Et je passe mon temps à voilà, faire plaisir à mon ex, à mes parents, à mes potes, à tout le monde. Et bah, au bout d'un moment, non, voilà, il était temps que je me fasse plaisir à moi, mais et pas de manière superficielle. Il fallait vraiment que je découvre un peu mon histoire. Parce que finalement, moi, je suis née en France. Mes parents, eux, ont fui la guerre. Ils font partie de la diaspora asiatique qui est venue juste après. Et par contre, mes parents m'ont élevé comme si on vivait encore au pays. Donc forcément, il y a une fracture entre mes parents et moi qui jusque-là n'avait jamais été expliquée et moi, je ne comprenais pas. Et je m'étais dit que grâce à ce voyage, j'allais mieux comprendre mes parents et peut-être me dire que l'impact de justement cette interculturalité était beaucoup plus grand de ce que j'imaginais.
Mais d'ailleurs, justement, en parlant de tes parents, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle quand tu as commencé à tout plaquer et à préparer ce voyage pour toi toute seule?
Au début, comme ils pensaient que c'était des vacances avec mon ex et tout, voilà, ils étaient plutôt contents que j'aille là-bas. Et puis quand ils ont découvert que j'étais partais toute seule, donc là, ça a été un autre. je voyais que ça avait changé la donne. Ils avaient un peu peur et j'ai tenté de les rassurer comme je pouvais. Mais surtout, en fait, j'ai trouvé que c'était la première fois que mon père me considérait comme une adulte grâce à cette démarche. Donc, si tu veux, c'est depuis ce voyage qu'on a vraiment pu avoir des liens plus forts avec mon père et vraiment discuter.
Et de ne pas avoir juste ce lien parent-enfant, mais avoir ce lien d'adulte plus profond, en fait, et qui montre que tu as grandi, que tu es une femme maintenant et que tu fais des choix et que ces choix ne sont pas tout à fait déconnants par rapport à sa propre histoire à lui.
Oui, voilà.
Et comment tu as organisé ce voyage? Est-ce que ça a été très méthodique de type tu as tout plaqué et après tu as commencé à organiser, je sais pas, ton itinéraire, sachant qu'en plus il était déjà un peu prévu? Est-ce que tu as changé l'itinéraire, ce genre de choses? Comment tu as fait tout ça?
On avait prévu, du coup, comme c'était en 2 semaines à la base, un peu un tracé, mais vraiment dans les grandes lignes. Moi, il y avait juste vraiment 3 villes que je voulais absolument faire, 2 au Vietnam et 1 au Laos. Forcément, bah, la ville où est né mon père et la ville où est née ma mère.
Bien sûr.
Et après, je me suis dit non. Je me suis dit, de toute façon, vu que je voyage depuis un moment, je me dis le meilleur moyen, c'est de se laisser guider et se laisser porter par l'aventure. Et finalement, oui, c'est ce qui a été le mieux pour moi. Donc, non, non, ça a été un peu total inconnu, quoi.
Et est-ce que justement, en parlant d'inconnu, est-ce que maintenant, tu as, avec le recul que tu as, et comme ça s'est passé il y a 2 ans, c'est ça, 3 ans?
Non, ça fait 5 ans.
5 ans, pardon, je pensais que c'était plus récent. Enfin bref, donc maintenant, vu que tu as du recul, tu sais que c'était un voyage qui était très initiatique pour toi, qui a eu un déclic pour te reconvertir et te trouver toi-même. Mais est-ce qu'à ce moment précis, quand tu étais en train de préparer ce voyage, tu savais le poids qu'allait avoir en fait ce voyage dans cette quête de toi?
Je le sentais que quelque chose se tramait en moi, j'ai pas d'autre mot, mais je ne pensais pas que j'allais apprendre autant sur moi, en fait, justement, et me connaître autant. Et souvent, je le dis, je le redis, je ne savais pas que j'allais tomber amoureuse de moi-même.
Mais ça, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'on a dit 1 ou 2 fois dans le déclic. On parle beaucoup d'instinct, mais moi, je dis souvent aussi que il faut être gentil avec soi-même, mais il faut apprendre à se connaître soi-même et savoir être seul, parce que la seule personne avec laquelle on passera toute notre vie, et c'est sûr, c'est nous-mêmes. Donc, tu as tout à fait raison de le préciser.
Oui, en plus, comme tu le dis, hein, mais je pense que c'est vraiment la base, c'est la condition sine qua non pour accomplir toutes les autres choses dans notre vie. Et malheureusement, voilà, je me rends compte qu'on peut être tellement violent vis-à-vis de nous-mêmes. Je me rends compte aussi que, tu vois, quand justement on se dénigre super facilement, ah, je suis nulle, ah, je suis trop conne, voilà, faut pas croire que ça n'a pas d'impact sur nous. Faut pas, en fait, on peut pas s'insulter et s'auto-flageller et après espérer s'aimer et s'envoyer des fleurs, quoi. C'est pas
Et
possible.
avoir confiance en soi.
Oui, voilà, ça c'est un non-sens, quoi.
Et donc on va parler justement un petit peu de ce voyage et de ce que ça a déclenché en toi pour l'après. Notamment ce qui est très intéressant, et on va mettre le lien dans la description de cet épisode. En 2019, tu as été finaliste d'un concours d'écriture qui est paru dans Libération, qui parle justement d'une histoire sur la fin de ton voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, un, de ton voyage et deux, ce que ça a inspiré en toi pour l'écriture?
Yes, donc ça a été vraiment, je pense, un des épisodes les plus marquants de ce périple. Et comme tu le disais, c'était vraiment vers la fin de mon périple. Donc voilà, je l'ai passé quand même la plupart du temps seul, ce voyage. Et vers la fin, ça a coïncidé avec un groupe de potes qui venaient faire le Nouvel An, du coup, au Laos. Parce que en fait, le Nouvel An est au mois d'avril et pas au mois de janvier, comme en
D'accord.
France. Et comme par hasard, on était dans la même ville pour fêter le Nouvel An.
Incroyable.
Donc voilà, donc ça faisait beaucoup de coïncidences. Et parmi le groupe de potes, j'avais justement un très bon ami à moi que je n'avais pas vu depuis un moment. Donc j'étais vraiment hyper contente des retrouvailles. Et comme eux étaient en mode vacances, bah forcément, ils avaient, on va dire, un meilleur pouvoir d'achat que moi. Et moi, j'arrivais à la fin de mon voyage, donc c'était
Oui.
un peu juste. Ils ont été super cool parce que justement, et dans leur groupe, il y a eu un désistement. Et donc, ils m'ont permis de voyager avec eux dans leur van qu'ils avaient loué et tout, justement, au moins jusqu'à la prochaine étape que j'allais faire.
Trop bien.
Et ouais. Et justement, en fait, c'est une étape que je refusais de faire, que j'évitais à tout prix, qui s'appelle Van Vieng et qui se trouve au Laos, parce qu'elle était réputée comme étant le spring break, en fait, de l'Asie. Et
D'accord.
moi, je n'avais pas du tout envie de cette ambiance-là. J'avais vraiment envie de me poser et d'être tranquille. Et comme en fait on est obligé de passer par là de manière ou d'une autre pour aller à Vientiane, j'ai dit bon bah allez ok de toute façon vu que je suis là quoi. Et quand on est arrivé, ce que j'explique donc dans mon histoire sur Libé, mon pote Jumin se rend compte qu'il a oublié son sac à dos avec son passeport, son argent dedans, dans un petit boui-boui à 60 bornes de là où on était, voilà, sur une chaise.
Champion.
Exactement, champion du monde. Sauf que voilà, comme tout nouvel an, ben, pas de tuk-tuk, trop loin pour le van qui était déjà en train de fumer. Voilà, donc c'était vraiment, il fallait un système D. Et finalement, on a réussi à négocier, enfin négocier, tout est relatif avec l'aubergiste en fait qui tenait la guest house et tout, dans laquelle j'avais finalement pris une chambre. Et elle a dit, OK, mon mari peut vous emmener. Voilà, par contre, c'est tant de dollars parce que c'est le nouvel an et blablabla. Et voilà. Donc, allez, de toute façon, on s'en fout. De toute façon, c'est papy qui comptait le plus. Et du coup, on a pris la voiture ensemble. Lui, il est aussi d'origine, enfin, à moitié laotien comme moi. Du coup, on s'est dit, peut-être qu'au niveau langue, on va pouvoir bien se faire comprendre et tout ça. Et en fait, on s'est lancé sur la route et on a tout traversé, en fait. Pour retrouver son sac.
Incroyable. Mais et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette aventure de sauvetage de sac?
Moi, en fait, comme je suis des fois, j'ai les meilleures idées du monde. Moi, en plus, je savais pas. Donc, j'ai pris un mango check quand j'étais arrivée à Vendbien. J'étais assise à l'avant, mais moi, j'ai eu le mal des transports. Donc, j'arrêtais pas de me retourner pour lui parler, pour on échangeait un peu, amener plus de légèreté en fait, par rapport à la situation. Sauf qu'à force de me retourner, j'avais juste une envie, c'était de vomir.
Aïe.
Donc à un moment donné, j'ai dit au chauffeur, j'ai dit non mais arrête-toi, j'en peux plus. Et j'ai ouvert la voiture et j'ai dégueulé en fait.
En même temps, avec l'alcool, plus le mal des transports, plus le fait de se retourner, effectivement, je comprends que tu te...
Bon, je précise, dans le mango check, il n'y a pas d'alcool dedans, mais c'est juste, je pense que c'était trop, tu vois, c'était trop pour moi. Et en plus, comme c'était le nouvel an, le nouvel an en Asie, il faut savoir que, en tout cas, cette partie-là de l'Asie, c'est une bataille d'eau qui dure une semaine. Donc, en fait, sur la route, les gens te balancent des seaux d'eau. Donc, en fait, il faut un peu esquiver les gens, c'est un peu...
Ouais, c'est un slalom, quoi, en plus.
Ouais, c'est ça, c'est Interville, quoi, version... Et voilà. Et en fait, je lui ai dit, voilà, quand j'étais par terre, lui, il me tenait les cheveux pendant que je vomisse comme un bon pote. Et là, je lui ai dit, non, mais mec, franchement, comme dans les films, j'ai dit, je vais vous ralentir, allez-y sans moi. Et il m'a dit, mais t'es sûr et tout, je suis, oui. Et voilà, après, du coup, il est parti. Et moi, je suis restée solo, par terre, en train de regarder mon vomi.
Et comment tu... j'imagine que tu te sentais très mal à ce moment-là.
Ouais. Et je me sentais encore plus mal parce que j'avais vu que j'avais dégueulé devant une maison.
Aïe.
Et là, en fait, il y a une mamie qui, tu vois, que je vois à l'encolure de la porte, qui me regarde. Et je me dis, ah, ça y est, je vais me faire défoncer, mais version asiatique, genre à coup de balai. Et donc, j'étais en train de prier, en train de joindre mes deux mains, tu vois, en train de prier, dans pardon, pardon, pardon. Et finalement, elle m'a dit, non, mais viens. Et du coup, elle m'a fait entrer chez elle. Et c'est là que la magie a commencé. Elle a appelé sa fille qui était aveugle. Elle lui a demandé de m'amener un coussin. Donc, elle m'a ramené un coussin qu'elle a déposé à même le sol. Je me suis couchée et elle a commencé à se préparer parce qu'elle avait un mortier où elle tapait du gingembre. Et là, elle m'a dit, en laotien, elle m'a dit, ouais, dors mon enfant. Et en fait, comme elle m'a dit cette phrase, c'est une sensation. Tu vois, même là, je te parle, j'ai des frissons. J'ai senti voilà, une paix intérieure. Même si j'avais pu avoir tous les problèmes du monde, à ce moment-là... J'étais juste sereine et voilà, c'était vraiment une sensation de paix intérieure, quoi. J'ai pas d'autre expression pour vraiment le décrire et je me suis endormie.
Et t'as dormi combien de temps?
Selon Jumine, parce qu'après moi j'étais plus trop consciente, je pense environ 45 minutes.
Pas seulement?
Ouais. Et voilà, on croit que ça dure plus longtemps, mais en fait, non. Et ce qui était marrant, c'était lui, il était même plus sûr de la maison devant laquelle il m'avait laissé. Donc, il n'a plus jamais me retrouver. Et je lui raconte, en fait, finalement, ce qui se passe avec la dame. Hein. Je lui dis, voilà, vraiment, elle a été c'est même plus de la gentillesse, quoi. Mais c'était vraiment, j'ai tellement plein de gratitude, en fait, à cette personne-là. Et je lui dis, voilà, écoute, ce qui était OK, on lui donne tout le cash qu'on a. Parce que voilà, je pense que même en France, personne n'aurait fait ça pour nous. Donc voilà, il m'a dit, OK. Et en fait, avec le peu qu'on avait, ça faisait l'équivalent de 10 euros, tu vois. Mais ça faisait l'équivalent de 6 mois de salaire pour une personne.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, et en fait, elle a été limite, elle avait les larmes aux yeux et elle nous remerciait. Et je lui disais, mais en fait, non, c'est moi qui vous remercie. Parce que voilà, franchement, il y avait... j'ai vomi devant chez vous, vous étiez obligé de rien faire. Et voilà, vous m'avez accueilli comme si j'étais votre propre fille. Et voilà. Donc après,
c'est une super belle histoire.
Ouais. Et comme je le dis, d'ailleurs, s'il m'écoute un jour, Jumine, salut Jumine, mais c'est vraiment cette histoire-là qui a créé un lien hyper fort entre Jumine et moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a une amitié vraiment unique.
Effectivement, je pense que ça rapproche ce genre d'histoire. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Et comme vous l'avez vécu un petit peu dans les deux, c'est comme si vous aviez un cocon à vous deux, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et excuse-moi, j'ai été un petit peu rapide tout à l'heure par rapport à passer sur ton voyage. Mais tout à l'heure, tu as dit que ce voyage t'a permis de tomber amoureuse de toi-même. Est-ce que tu te souviens de ce moment où pendant ton voyage, donc que ce soit au Vietnam ou au Laos, tu as eu cette réflexion et tu t'es dit j'adore ce qui se passe, j'adore ce que je fais, j'ai adoré cette décision que j'ai prise, etc.
Je pense que je me souviens, enfin il y a eu pas mal de moments, mais je me souviens d'un en particulier où j'étais à Hoi An, du coup au Vietnam, et j'avais décidé d'être toute seule ce jour-là, alors qu'il y avait des trucs qui se passaient à la guest et tout, donc j'ai dit non, j'ai envie de me balader, et en fait j'ai fini par atterrir devant une rizière immense, tellement belle, et j'ai pris ce chemin-là. Et je me rappelle que je me suis juste allongée sur l'herbe et j'ai regardé le ciel et je me suis dit la vie elle est parfaite. La vie elle est parfaite, je suis trop bien, juste je suis en fait, c'est ça en fait, juste je suis. Et, c'était juste incroyable comme sensation et je dis bah en fait enfin voilà quoi, enfin c'est ça en fait de sentir à sa place au bon moment, au bon endroit et te rendre compte qu'on a besoin de rien d'autre.
Mais tu vois, rien qu'avec ton récit, j'ai l'impression d'être dans une bulle, en fait, avec toi. Et du coup, qu'est-ce que cette bulle, qu'est-ce que ce voyage a changé dans ta vie depuis ?
Tout. non, clairement, il a changé. Déjà, on en parlait au départ, mais oui, ça a donné le pas pour une reconversion professionnelle. Ça m'a permis de relativiser aussi, quand j'avais un problème, entre guillemets, qui m'arrivait. Ça m'a permis aussi de comprendre l'importance de l'environnement autour de toi, c'est-à-dire tes amis, pour la plupart du temps.
Ouais.
Parce qu'il y a une phrase que j'adore qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, clairement, si t'es la seule qui tire vers le haut ton groupe d'amis, ben, faut changer de groupe d'amis, quoi.
C'est clair.
Et je pense que oui, ça m'a donné une autre aussi perspective. Je pense de la compassion envers mes parents. Parce que voilà, j'ai compris vraiment que c'était aussi leur héritage culturel qui a fait, qui m'ont élevé comme ça et qui finalement ils ont fait de leur mieux. Donc voilà, je pense que ça m'a un peu réconcilié avec pas mal de choses et ça m'a permis de grandir. Et même si je continue de grandir, hein, mais ça m'a permis de, je pense, un peu prendre en maturité et en sérénité.
Et peut-être te réconcilier avec toi-même aussi.
Oui, après, je sais pas trop, si, tu vois, je pense que c'est le besoin plutôt de me retrouver, on va dire.
Voilà. Ouais, okay, mais de me retrouver. Effectivement.
Et après ce voyage, on en a parlé un tout petit peu, mais on va en rentrer un peu plus en profondeur dans ce thème. Après ce voyage, tu as décidé de te lancer dans l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que c'est justement ce voyage était le déclic 1 d'une reconversion professionnelle et particulièrement de l'humanitaire. Pourquoi l'humanitaire, en fait ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ?
Je pense que je voulais en faire depuis que je suis petite, de par mon histoire, parce que je sais que mes parents n'ont pas grandi dans les meilleures conditions, enfin, surtout mon père, parce que la famille de ma mère, c'était différent. Et je me sentais, surtout après ce voyage, chanceuse d'être née en France et d'avoir connu, finalement, un confort, mais inégalé, ne serait-ce que, je ne sais pas, l'eau chaude. Parce que voilà, un des rares pays où il y a de l'eau chaude. Et je me rappelle même quand j'étais petite, au collège ou même au lycée, je faisais que des exposés qui étaient liés à l'humanitaire. Je faisais des exposés sur des enfants qui récupéraient des déchets en Inde. C'était quelque chose qui, je pense, depuis longtemps m'attirait et que j'avais jamais osé, faire le pas. Si j'avais essayé de faire du bénévolat comme pas mal de gens pour partir à l'étranger. Mais j'ai pas trop aimé le concept de payer en fait pour vivre une expérience alors qu'on donne déjà de son temps. Je me trouvais ça un peu bizarre. Et à la fin de ce voyage, et c'est grâce aussi aux rencontres que j'ai fait pendant ce voyage qui m'ont vraiment où j'étais arrivée finalement à un point où je me suis dit ok, Donc là, quel est le sens de ta vie si tu retournes en France, que tu te mets derrière un bureau, devant ton ordi? Aucun. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire l'humanitaire. J'ai envie de, justement d'aider les autres et je veux le faire de manière professionnelle. Et depuis que j'ai pris cette décision-là, ben, j'ai fait que rencontrer des gens qui faisaient de l'humanitaire. J'ai appris qu'il y avait une école en plus à Lyon, alors que moi je suis de Lyon et je n'étais même pas au courant. C'est l'Institut Bioforce. Et je me suis dit, allez, ben, feu, regarde les modules. Donc j'ai repris mes études donc en 2016. Et en gros, je finissais le 30 juin 2017 ma formation et le 4 juillet, je m'envolais pour ma première mission humanitaire.
Et du coup, Ingrid, quand tu t'es lancée dans l'humanitaire, tu as fait quel pays et de quelles expériences tu peux nous parler un petit peu dans cette expérience, tout simplement?
Alors, j'ai fait la Centrafrique, j'ai fait l'Irak et dernièrement, j'ai fait la RDC, donc République démocratique du Congo, partie Kinshasa.
Ok.
Et je pense que le plus marquant, ça a été la dernière, justement, qui a été la plus dure et qui a aussi, je pense, là, marqué la fin d'un cycle pour moi.
Et du coup, tu dis que ça a marqué la fin d'un cycle, mais la fin du cycle humanitaire, pourquoi exactement?
Déjà, je pense, j'ai un peu une version, avant d'être entrée dans cette école, un peu utopique. Je ne dirais pas jusqu'à bisounours. Mais moi, si j'avais entrepris l'humanitaire, c'était aussi pour quitter le privé, que j'imaginais voilà, être un centre de profit et ainsi de suite, pour une cause qui me paraissait plus noble. Et finalement, quand je suis arrivée sur le terrain, forcément, on a tous des motivations différentes, donc j'ai vraiment vu de tout. Souvent, j'aime à répéter que j'ai côtoyé le pire et le meilleur de l'humanité dans un échantillon très condensé. Et oui, je pense qu'au bout d'un moment, je ne m'y retrouvais plus, surtout par rapport à cette dernière mission, qui a été dure. Donc, c'est la première ONG française que j'ai faite. J'ai choisi d'être sur le terrain. Donc, j'avais été envoyée dans le Kasaï, dans la ville du Diamant.
D'accord.
Donc, là, autant que ça donne un peu un contexte aussi géopolitique. Et ce que je ne savais pas avant d'arriver, c'est que j'allais rattraper un retard d'un an de projet en un mois. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif qu'on m'avait donné.
D'accord.
Donc, c'était pas
C'est
une mince
beaucoup.
affaire. Ouais, c'est beaucoup. En plus, dans un contexte sanitaire qui a été assez hard pour moi, parce que j'ai quand même fait 2 palus et j'ai eu un parasite intestinal.
Aïe.
Voilà, j'ai aussi perdu des défenses immunitaires au niveau des yeux. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu un ulcère de la cornée. Donc
Waouh.
voilà, ça a été assez compliqué pour moi. Et après, voilà, forcément, des problématiques, on va dire, de corruption et de fraude à grande échelle. Voilà, donc on va dire, c'est dans un contexte de travail pas totalement simple. Je trouve aussi une organisation. Au niveau de l'ONG, un peu, enfin, qui laissait à désirer, mais ça, ce n'est que mon avis, ça reste personnel. Et surtout, je pense, manque de bienveillance de la part de certains membres de mon équipe, parce que je trouvais en fait que en fait, moi, j'ai fini en burn-out, en fait, voilà, pour faire simple.
D'accord.
Enfin, c'est la première fois de ma vie que je suivais une thérapie avec une spécialiste du trauma. J'ai fait ce qu'on appelle de
Ah
l'EMDR. Voilà, enfin, je veux dire, c'était pas quelque chose de léger ou hein, quelque chose de passager, ça a été quand même assez éprouvant. Et je pense que oui, ça m'a pas aidé d'avoir des fois des collègues voilà, qui pour eux banalisaient un peu le côté burn-out et non, qui n'était pas du tout moi ouais, qui manquait de bienveillance, quoi.
Et est-ce que tu penses que si jamais cette expérience s'était mieux passée, tu aurais continué l'humanitaire ou est-ce que de toute façon ça avait été la fin d'un cycle pour toi?
Je pense que je l'aurais continué, mais peut-être que j'aurais arrêté les contextes, ce qu'on appelle un peu d'urgence ou de réhabilitation. Parce que voilà, sur les 3 pays que j'ai fait, c'est quand même des pays assez compliqués. Peut-être que je me serais tournée vers du développement, c'est-à-dire un contexte de sécurité beaucoup plus stable. Voilà, moins ce côté un peu anxiogène que peut apporter des conflits géopolitiques. Mais dans tous les cas, non, je pense que j'aurais fait une pause. J'aurais fait une pause. J'aurais pas forcément pris la décision d'arrêter en entier, quoi. Mais je pense que j'aurais peut-être continué sur peut-être une ou deux missions à la rigueur, mais non plus. Je savais que tôt ou tard, ça allait bientôt se finir. Parce que j'étais pas du tout en accord avec le système.
D'accord, mais est-ce que tu penses que, je sais pas, un jour tu essaierais de te lancer toi-même, comme tu disais que c'était quelque chose qui faisait partie de toi, que tu imaginais depuis que tu étais enfant, est-ce que tu n'aurais pas l'envie un jour de te lancer toi-même pour, je sais pas, lancer ta propre ONG, ce genre de choses?
Si, justement, c'est un de mes projets, en fait, je pense, au moyen terme. J'aimerais monter une fondation qui permettrait à des enfants d'accéder, en fait, aux études supérieures, voilà, par le biais, je sais pas, d'un mécénat, d'entreprise ou peu importe. Mais je me suis rendu compte souvent qu'il y avait des enfants qui étaient juste nés au mauvais endroit, au mauvais moment, et que pour accéder à des études supérieures, bah, il leur fallait beaucoup d'argent, ce qui n'était pas possible à l'heure actuelle. Et je pense que voilà, ce serait juste donner un coup de pouce pour que ces personnes-là puissent devenir quelqu'un dans leur pays et aussi permettre à l'évolution des politiques au sein vraiment bah, seulement de leur pays. Parce que nous, voilà, quand on est expatrié, on vient, on part. Finalement, on ne s'en rend même pas compte. Peut-être qu'on fait même plus de dégâts qu'à l'arrivée dans certains contextes. Hein, je parle bien. Et oui, je pense que c'est un des projets. Et je pense que je ferais différemment. Je pense que j'essaierais de travailler avec vraiment des ONG locales. Parce que finalement, il y a vraiment qu'elles qui connaissent vraiment, voilà, justement, au niveau culturel, au niveau des habitudes, des coutumes, voilà, de la politique, leur pays. Et je pense que ce serait le mieux.
Mais c'est un très beau projet, mais tu as aussi un autre projet dont tu m'as parlé un petit peu quand on a préparé ensemble cette interview. Arrête-moi si je me trompe, mais tu avais pour projet de partir en Ouzbékistan pour vivre avec une tribu nomade. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça?
Oui, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai terminé donc la mission, que je suis revenue en France et que j'ai commencé ma thérapie, pareil en fait, je disais à ma psy, moi je suis pas du tout psy, j'adore les psys, j'ai beaucoup d'amis psys mais c'est pas trop dans mon état d'esprit et que je préférais trouver les ressources en moi aussi pour guérir et passer à autre chose. Donc j'ai décidé en fait de faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est vraiment ce pèlerinage qui, entre guillemets, m'a servi de thérapie en dehors de l'EMDR et qui m'a fait rappeler, en fait, grâce à un ami maintenant qui s'appelle Abou d'ailleurs, on parlait en fait de ce qu'on voulait faire quand on était petit et j'ai dit, moi, je voulais faire aventurière.
Trop
Et
mignon.
voilà, et après, je me suis dit, mais finalement, c'est pas totalement déconnant.
Bah
Et
ouais.
je me suis dit, tu vois, bah, justement, j'aime écrire, j'aime voyager. En plus, bah, cette année, en fait, du coup, j'ai vraiment gagné un concours d'écriture et j'ai été publiée.
Ah, félicitations.
Voilà, merci. Et je me suis dit, voilà, vu que j'aime voyager, comment associer les deux? Et c'est là qu'en fait, que j'ai vu qu'il y avait des bourses qui sont octroyées par le National Geographic. Et je me suis dit, ben, allez, pourquoi pas? Et finalement, de fil en aiguille, je me suis souvenue d'un ami que j'avais rencontré en Irak, qui est ouzbek. Et qui venait justement d'un des derniers peuples nomades.
Incroyable.
Je me suis dit, voilà, justement, tu vois, avec la crise sanitaire et tout ça, on perd un peu des valeurs qui, voilà, on a un peu dépassé par la modernité. Et là, c'est un peu un retour aux sources. Il faut savoir, par exemple, que je ne sais pas, le chamanisme, c'est originaire de là-bas, par exemple.
D'accord. Ah, je savais pas du
Et
tout. Tu
voilà, même la
m'apprends un truc.
racine du mot, en fait, vient du russe.
Mais c'est des pays qu'on connaît moins et après moi je parle, j'ai pas du tout ton expérience, mais je parle en tant que touriste. Hein, j'ai l'impression, j'ai vu, j'ai des amis quoi, qui ont voyagé pas en Ouzbékistan, mais dans des pays voisins de type Kirghizistan, etc. Juste en termes de tourisme, sans parler évidemment de tourisme de masse en arrivant avec des gros 4x4, etc. Ça a l'air magnifique déjà comme pays. Et c'est des pays auxquels on pense pas pour aller faire un tour d'Asie, d'Eurasie, quoi. Mais j'ai l'impression que ça a l'air absolument superbe déjà comme pays.
Ah mais justement, oui, c'est ça. C'est que ça, en plus, ça a une histoire assez impressionnante. Et notamment l'Ouzbékistan, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie, je sais pas tu vois ce que c'est, le zoroastrisme.
Oui.
C'est donc une des premières religions monothéistes. Et si tu veux, le livre, en fait, qui est né, enfin, qui correspond à cette religion, aurait été trouvé là-bas. Il y a toute une légende sur en fait qu'il y aurait une cité engloutie entre guillemets souterraine que même le KGB a recherché et n'a jamais trouvé. Et c'est pour un peu suivre ça que j'ai envie de partir aussi, entre autres. Voilà,
D'un sacre.
c'est un peu un spoil, mais c'est aussi c'est un putain de teaser, on va dire. Mais voilà, entre autres.
C'est incroyable, mais est-ce que tu sais où ça en est ce projet? Parce que tu parlais de la crise sanitaire. En fait, ce projet, tu l'as eu avant la crise sanitaire ou pendant?
Non, non, je l'ai eu bien avant et justement, je devais partir déjà un premier mois. Bah voilà, avec mon ami du coup ouzbek, faire un peu un tour des lieux que je voulais visiter, rencontrer justement ce peuple, voir ce qui se passe réellement. Parce qu'on sait aussi qu'avec l'URSS, les gens ne sont plus trop nomades, sont plutôt semi-nomades. Et pareil, toujours dans le respect en fait et de l'intimité des gens et de leur culture. Je voulais ni paraître intrusive, tu vois. Je voulais vraiment, voilà, on va dire, c'est. De toute façon, tu peux pas en fait te projeter tant que t'es pas allé là-bas, quoi. C'est clair. Et non, non. Du coup, là, ça a été un peu mis en stand-by. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis parlé aujourd'hui avec ce pote-là qui est retourné en Ouzbékistan. Donc là, on va essayer de trouver un moyen, je pense. Du coup, là, vu que je fais l'acting jusqu'à fin février, donc peut-être éventuellement pouvoir partir déjà au mois de mars, si c'est possible. Et après, voilà, en fonction, remonter un dossier, tout ça, chercher des mécènes et compagnie.
Est-ce que tu sais, t'as un petit peu une idée de quand tu pourras partir, enfin autrement qu'après la crise du Covid, mais est-ce que tu sais si, enfin en gros, est-ce que tu es de type à te dire en fait, bah dès que les frontières sont réouvertes, go go go. Est-ce que c'est ce que tu vas faire?
Non, je pense que je suis moins dans cette fuite en avant. Parce que finalement, moi, j'ai adoré cette période du Covid. Pour moi, cette année 2020, ça a été génial. Déjà pour la partie introspective. Ça m'a permis aussi de voir différemment les choses. Je pense que j'ai compris que pour être encore plus libre, il fallait que voilà, je puisse construire un peu des bases financières. Parce que voilà, enfin, clairement, tu vois, je veux dire, si j'avais continué mon mode, on va dire, un peu nomade de vie, une fois que tout est vraiment à l'arrêt, tu peux rien faire, quoi. Et si t'as
C'est
pas un
clair.
minimum de sécurité, ben, tu peux rien faire non plus. Donc là, c'est de me dire, OK, là, je suis revenu sur Lyon, qui est ma ville d'origine. Donc voilà, tant que l'inconnu d'équation là, du Covid est là, moi, je suis ici. Je construis, voilà, j'ai deux, trois projets justement pour m'assurer une pérennité, on va dire, dans mes revenus. Et voilà, une fois que je les mets en place, je partirai à ce moment-là. Voilà, enfin, pour moi, c'est, j'ai pas envie de faire un projet qui est précipité, tu vois. Et voilà, ça me laisse le temps aussi d'apprendre vraiment le russe, parce que là, j'ai commencé. Et oui, je pense que de toute façon, tout arrivera, tu vois, à point nommé. Je sais que je le ferai, j'ai aucun doute dessus. Et je préfère vraiment les faire dans les conditions optimales.
C'est trop bien. Du coup, je finirai sur cette dernière question, même si je pense avoir la réponse, au vu de tout ce que tu me racontes. Est-ce que tu te sens heureuse aujourd'hui?
Oui.
C'est génial.
Je te remercie beaucoup. Je finirai juste sur ce oui parce qu'en fait, il suffit à lui-même. Je te remercie beaucoup, Ingrid, pour ta confiance et pour tout ton récit qui était hyper intéressant. On va continuer à suivre tes aventures. À la limite, ce que je te propose, ce qu'on pourra faire, alors là, je suis en YOLO, c'est que ce projet ouzbek se réalisera, on pourra peut-être faire un autre déclic pour parler de toute cette aventure parce que c'est tellement cool. Et puis en plus, tu vois, toutes ces parties d'Eurasie centrale, c'est tellement des pays qu'on oublie, nous, en tant qu'Européens complètement auto-centrés, etc., que c'est une grande inconnue aussi pour nous et je serais ravie d'en reparler avec toi si tu le veux bien.
Ouais, mais avec plaisir. Et c'est vrai je pense qu'il y a des choses qu'on oublie, mais il y a tellement d'héritages culturels qui viennent de là-bas. Et on s'en rend pas
On
assez
le sait
compte.
même pas.
Ça pour un autre épisode.
Je dirais même qu'on le sait même pas, quoi.
Ah oui, mais c'est sûr et certain. Parce que même moi, j'en apprends vraiment tous les jours en lisant des livres. Et je me dis, non, mais c'est pas vrai, ça vient de là. Ah oui, quand même. Oui, donc je pense que c'est vraiment une terre riche en souvenirs et. Ce qui a l'air génial, même au niveau humain, quoi. Ça a l'air assez ouf. Et d'ailleurs, en fait, je viens de créer en fait un compte Instagram pour préparer en fait cette expédition-là et pour
Trop
raconter
bien.
un peu, tu vois, ce que j'ai fait jusqu'à présent un peu et un peu vous montrer qui je suis et expliquer les étapes par lesquelles je vais passer pour préparer ce projet-là.
Eh ben c'est trop bien, comme ça on va le mettre dans la description et nos auditeurs pourront aller le follow et suivre toutes tes aventures. En tout cas, Ingrid, je te remercie beaucoup. On te retrouve très bientôt dans la chanson et je te dis à très, ben, je te redis encore une fois à très bientôt. Merci d'avoir écouté le déclic d'Ingrid. Vous la retrouverez bientôt dans la chanson. Retrouvez en barre de commentaires tous les liens pour suivre la suite de ses aventures. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode de la chanson de Margot qui a raconté dans l'épisode précédent du déclic comment elle a décidé un jour de s'installer à Londres. On se retrouve début janvier pour le prochain déclic. Si vous aimez 18h17 Productions, n'hésitez pas à vous abonner à nos formats et à nous mettre 5 étoiles. Pensez donc à aller écouter nos épisodes de la chanson, de l'apéro et de notre nouveau format, le jeu de l'amour, de l'amitié et du hasard. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à 18h17 Productions. On vous souhaite à tous et par avance un joyeux Noël et une très bonne année 2021.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.